En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres a organisé, en partenariat avec la Société asiatique et l'Institut national des langues et civilisations orientales, le 11 et le 12 janvier 2013, un colloque intitulé « Voir et concevoir la couleur en Asie ». Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de l'intervention de Pierre Baptiste du musée Guimet. Sa communication s'intitule « La polychromie dans l'ancien Cambodge, statuaire et décor architectural, 7e, 13e siècle. »
En préambule, je voudrais dire combien le titre de ma communication est trompeur, puisqu'en fait, vous ne verrez pas les belles images que Madame Filiosa ou Monsieur Zéphir ont pu, ou Madame Parlier-Renaud ont pu vous montrer l'ancien Cambodge, du Cambodge classique. C'est-à-dire la période chronologique que j'ai choisi d'évoquer avec vous ici. En fait, ces vestiges de polychromie, vous le verrez, se limitent en fait pour les éléments que l'on considère aujourd'hui comme étant parmi les plus anciens à des éléments extrêmement ténus, hein, parfois de petits points qui ne mesurent pas plus de 2 millimètres de diamètre et parfois, hélas, moins. En fait, depuis la redécouverte d'Angkor dans la seconde moitié du 19e siècle, le début des travaux scientifiques dans le domaine des arts du Cambodge ancien, les découvreurs de ces monuments se sont interrogés naturellement sur l'aspect originel des architectures qu'ils révélaient au monde et des sculptures mises au jour dans ces différents sanctuaires. En fait, une littérature abondante, initiée dès 1863 avec la parution de la relation du voyage au Siam et au Cambodge du naturaliste Henri Mouhot dans la revue Le Tour du Monde et qui ensuite a toujours été renouvelée, décrit et étudie, sous les angles les plus divers, les temples d'Angkor et du pays Khmer tout entier, ainsi que la statuaire, évidemment, et les images divines qui y étaient jadis vénérées. Dans ses études, et notamment dans les plus anciennes, nous le verrons, on trouve en effet des allusions à l'aspect originel des temples et des images de culte et des interrogations sur leur polychromie éventuelle liées à des observations fondées autant sur la comparaison avec les monuments de l'Inde méridionale et plus particulièrement des sanctuaires hindous encore en activité dans ces régions que sur un examen plus approfondi des vestiges khmers eux-mêmes. Il faut bien reconnaître que ces remarques formulées ici ou là dans bien des travaux scientifiques, ont rarement dépassé le cadre de simples allusions, conduisant d'ailleurs, il faut bien le reconnaître aussi, dans un sens ou un autre, tout cela au sein d'études dont l'objet n'était pas spécifiquement lié à la problématique de la polychromie. À vrai dire, cette question n'a jamais vraiment été abordée pour elle-même d'une manière générale au Cambodge. Seuls des travaux ponctuels auxquels nous allons faire référence, bien sûr, focalisés sur une partie de monuments, peuvent être relevés. Le plus récent et le plus complet concerne, par exemple, l'étude des vestiges de polychromie apparaissant en divers endroits à Angkor Wat, le sanctuaire que vous voyez ici dans la gravure tirée d'un des dessins de Henri Mouhot, donc un grand sanctuaire vishnouite construit dans la première moitié du XIIe siècle par le roi Suryavarman II. Mais nous y reviendrons à la fin de cette brève évocation. Dans ce cadre, sans doute ne sera-t-il pas inutile, pour celui qui n'est guère familier des monuments du Cambodge ancien, de rappeler ici quelques notions essentielles concernant l'architecture khmer ancienne et la statuaire qui les caractérise. Les principales images de culte du Cambodge ancien étaient en fait majoritairement fondues en métal précieux. Et à vrai dire, bien qu'une œuvre apparaisse à l'écran ici, c'est plutôt un écran noir que j'aurais dû vous montrer parce que celle-ci est en bronze et concerne déjà le second exemple de ces œuvres. En effet, toutes les images de culte les plus importantes des sanctuaires pré-angkoriens et angkoriens que l'on ne connaît aujourd'hui que par les témoignages épigraphiques, quand ceux-ci se sont conservés sur les pieds droits des portes d'entrée des sanctuaires, etc., étaient en or, en alliage d'or et d'argent, ou en argent. Et hélas, il faut bien avouer qu'aucune de ces œuvres ne s'est conservée jusqu'à nos jours. Le plus souvent, les divinités étaient plutôt réalisées en bronze pour les images d'un second niveau, c'est-à-dire non pas celles qui faisaient l'objet d'une fondation royale et qui étaient au cœur du sanctuaire, des œuvres en bronze ou qui pouvaient être aussi sculptées dans la pierre ou le bois. En fait, on connaît un certain nombre de bronzes, comme celui-ci conservé au musée Guimet, qui ont conservé une partie de la dorure qu'ils recouvraient probablement entièrement à l'origine et qui, le plus souvent aussi, était fixée au mercure. Mais il faut bien reconnaître là aussi que les choses sont assez frustrantes parce que, dans le fond, les bronzes qui se sont conservés jusqu'à nos jours ne sont que les, pour la majeure partie d'entre elles en tout cas, ne sont que des pièces de moyenne taille ou plus souvent de petite taille. Les grands bronzes ne se comptent que sur les doigts d'une main, en fait, et ils n'ont pas conservé beaucoup de traces de leur ancienne polychromie, étant donné le contexte archéologique dans lequel on les a mis au jour, ou bien étant donné la vénération dont ils sont l'objet, notamment en Birmanie, par exemple, où certains grands bronzes khmers se sont conservés jusqu'à nos jours. Nous voyons ici deux exemples conservés au musée Guimet de ces petits bronzes, justement, qui ont un peu mieux survécu aux outrages du temps. Une divinité masculine que l'on peut dater des environs du 8e siècle, qui est très endommagée, notamment dans le visage, mais qui a conservé de belles traces de dorure. Et une divinité féminine un petit peu plus tardive, qui, elle, remonte au milieu du 10e siècle. Toutes deux présentent encore des traces de dorure, avec dans le cas de la pièce de gauche, une ornementation très fine qui peut se lire notamment dans certaines parties du décor du pagne, notamment dans le dos de la pièce. Mais vous reconnaîtrez qu'il ne s'agit pas à proprement parler de polychromie. Les sculptures de pierre, elles, qui se sont le mieux conservées jusqu'à nos jours, encore qu'elles soient la plupart du temps dans l'état fragmentaire que vous pouvez découvrir pour la sculpture qui est à gauche de l'écran, étaient toutes taillées dans une pierre, bien sûr, dans de la roche, dans une roche détritique de type grès, des arkoses ou des grovaques, dont la couleur elle-même varie en fait du brun rouge au gris bleuté. La surface de la pierre, une fois sculptée, prenait d'ailleurs avec le temps un ton légèrement différent du matériau d'origine dans un processus bien connu d'oxydation de ce matériau. Réalisée en taille directe, en un seul bloc terminé sur place, la sculpture épanelée ayant été scellée sur son piédestal dans le sanctuaire, était taillée in situ, très probablement, pour les détails de sa finition en tout cas, directement à la pointe, selon la technique de la taille directe et finement polie, comme vous pouvez en juger sur ces deux œuvres qui se distinguent un peu à la fois par leur iconographie, bien sûr, mais par leur chronologie. Mais nous sommes entre la fin du 10e et le milieu du 11e siècle. L'épigraphie, heureusement, témoigne de l'existence d'ornements et d'accessoires d'orfèvrerie fixés ensuite sur l'œuvre, ainsi que des costumes dont la sculpture pouvait éventuellement être parée, indépendamment des offrandes diverses qui pouvaient lui être faites. Bien des sculptures pré-ankoriennes, comme notre Bodhisattva Avalokiteshvara, ou Lokeshvara, si on se réfère plutôt à l'épigraphie contemporaine de cette œuvre, celle-ci mise au jour dans le delta du Mekong, ont gardé la trace de ces bijoux disparus depuis bien longtemps, notamment ici au niveau du diadème, où le bijou lui-même sculpté en pierre se complétait à l'évidence par un élément d'orfèvrerie qui devait lui-même être fixé dans les orifices latéraux qui apparaissent un petit peu mieux sur le dos de la pièce, comme je l'ai indiqué par la flèche qui est en rouge sur cet écran. Mais à ce jour, on ignore, dans le fond, si la surface de la pierre recevait en outre un revêtement, quel qu'il soit, notamment destiné à modifier ou à enrichir l'apparence chromatique de la sculpture. Il faut bien avouer que toutes les œuvres conservées dans les musées sont en effet aujourd'hui totalement dépourvu, ou presque, nous allons voir, de traces de véritable polychromie. Tout au plus, relève-t-on, en de rares endroits, quelques vestiges de dorure, comme notamment sur la tête de Jayavarman VII, conservée au musée Guimet, et là, il faut me croire sur pardon, sur parole, parce que je n'ai pas pu joindre un détail photographique de bonne qualité d'un de ces éléments de traces de dorure qui apparaissent ici ou là, à la fois sur les carnations du roi portraituré ici, ainsi que dans la coiffure du monarque. Mais le plus souvent, ces vestiges semblent bien postérieurs à la date de l'œuvre d'exécution, de l'œuvre elle-même. En effet, souvent, on s'aperçoit que ces fragments, ces petits exemples de dorure recouvrent des parties souvent altérées de la sculpture. Et leur mise en œuvre, en outre, n'a parfois, même très souvent, pourrait-on dire, à l'exception peut-être de cette tête du roi Jayavarman VII, aucune commune mesure avec la qualité qui avait été celle de l'œuvre originelle. Deux exemples bien évocateurs sont conservés dans les collections du musée Guimet. La très belle image de Hari Hara, découverte par Étienne Émonier près de la colline du Pnomda, à gauche, à l'écran, que l'on date des environs de la fin du VIe siècle, ainsi que celle d'une extraordinaire divinité féminine du style d'Angkor Wat, qui est postérieure de 6 siècles à la première œuvre et dont la provenance reste, à ce jour, une énigme. Ces deux chefs-d'œuvre de sculpture ont visiblement été l'objet d'un culte animiste à l'époque post-angkorienne, une chose que l'on connaît assez bien sous le nom de culte de Neacta, les ancêtres serpents qui ont fait l'objet effectivement de cultes de divinités de la terre dans le cadre des sanctuaires abandonnés depuis au moins le XVIe siècle. Et c'est probablement ce culte post-angkorien, donc animiste, qui n'a dans le fond rien à voir avec celui qui prévalait au moment de l'érection de ces images dans un sanctuaire hindou pour celle de gauche et hindou ou bouddhique, après tout nous n'en savons rien pour l'œuvre de droite, qui a dû être à l'origine de la laque dorée qui a été posée sans un véritable soin sur le visage du Hari Hara comme sur l'ensemble de la divinité féminine. Et d'ailleurs nous avons vu tout à l'heure une image et la même iconographie Hari Hara nommé différemment, mais dans le fond c'est la même chose, où l'on voyait bien que le visage aurait dû être séparé en deux dans sa restitution colorée si elle avait existé, ce qui n'est pas le cas ici. Seule la sculpture d'origine distingue bien la partie consacrée à Shiva, que l'on reconnaît à son chignon d'ascète et au croissant de lune ici en partie coupé, qui se trouve dans la partie supérieure de la photographie, et au troisième œil frontal, qui est lui-même parfaitement coupé en deux, puisque la seconde partie de l'image, le symétrique, qui n'est pas exactement symétrique justement, eh bien, est en fait une représentation de Vishnu que l'on reconnaît ici à sa mitre cylindrique. Or, la laque dorée recouvre l'intégralité de la carnation et elle passe aussi très largement sur des zones altérées la pièce. La même chose pourrait être dite de la divinité féminine, où la qualité de la laque, qui a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs couches, puisque on sent que dans ce culte animiste, on a rendu hommage à la divinité de nombreuses fois en venant repeindre sur les couches anciennes de nouvelles couches de laque elles-mêmes dorées, eh bien vient considérablement empâter le costume de cette divinité qui compte en fait parmi les plus belles sculptures en pierre de l'époque d'Angkor Wat. Vous voyez ici au niveau de la ceinture avec des pendeloques d'une richesse très rare dans l'arc Khmer de cette époque, combien les couches multiples de laque colorée viennent empâter l'art du sculpteur. Ils ne peuvent être en aucun cas considérés, évidemment, comme originales. Qu'en est-il alors d'une éventuelle polychromie originale ? S'il est fort probable, évidemment, quand on se réfère aux traditions indiennes et aux textes indiens que Madame Parlier-Renaud nous a évoqué dans la première partie de cette séance et dont les Khmers évidemment avaient connaissance pour la mise en œuvre de leur propre sanctuaire, eh bien, nous n'avons pas, il faut bien le reconnaître, de vestiges très impressionnants ou très lisibles de cette polychromie. De rares études réalisées notamment à l'aide d'une loupe binoculaire sur des œuvres qui furent heureusement en partie épargnées des nettoyages intempestifs que ces collections ont connu depuis la fin du XIXe siècle. Et en fait, il faut bien savoir qu'il n'y a presque pas d'œuvre qui n'ait pas été nettoyée très violemment, à la fois dans les collections de musées en France, au Cambodge, mais aussi, hélas, aujourd'hui encore, quand des travaux archéologiques ou plutôt des découvertes fortuites se font au Cambodge même, eh bien donc des vestiges extrêmement ténus apparaissent toutefois dans certains exemples, et notamment ici au musée Guimet, au moment de la campagne de restauration des sculptures khmères, où précisément nous avions été très vigilants sur ces questions de patine et sur la mise en œuvre d'une problématique de nettoyage. Nous sommes parvenus avec le laboratoire de recherche des musées de France à mettre en avant un certain nombre de ces éléments de polychromie sans que le laboratoire et bien sûr nous-mêmes ne puissions préciser à quel point cette polychromie était contemporaine des monuments sur lesquels elle avait pu être mise en avant. Vous avez ici un monument bouddhique dont les quatre faces se décomposent ici à l'écran, qui a été ramené du temple de Prakan de Kompong Svai en 1873 par Louis de la Porte et qui remonte au milieu ou à la seconde moitié du XIIe siècle. Et en fait, il figure parmi les œuvres sur lesquelles nous avons pu mettre le plus en avant ces traces de polychromie. Alors vous voyez qu'elle apparaît à l'écran, comme d'ailleurs dans les galeries du musée Guimet, comme absolument dénuée de toute trace de couleur. En fait, le laboratoire de recherche des musées de France a pu trouver en différents endroits, notamment ici sur un point particulier au niveau de l'épaule du Bouddha, quatre couches de polychromie avec même une couche de préparation qui est une chose très intéressante, notamment étant donné ce que nous avons vu sur ce qui existe dans certains traités comme ceux que nous venons de découvrir ou de redécouvrir avec Madame Filioza sur la nature justement de cette couche de préparation ici au Cambodge qui est faite d'un mélange d'os calciné, d'argile et de colle protéinique. Alors le cadre de temps dans lequel s'inscrit cette communication ne me permet pas de rentrer dans les détails. Quoi qu'il en soit, vous voyez que ces couches de polychromie existent. On passe d'une préparation à une laque sur laquelle on retrouve des traces de cinabre et puis au-dessus des traces d'argile potassique, de sulfate de calcium et de colle protéinique que l'on peut considérer aussi comme ayant été à l'origine une couche de couleur. Même chose pour un autre endroit de la sculpture au niveau d'une des têtes du cobra polycéphale. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais sachez que tout cela existe et a fait l'objet de rapports en fait hein, du C2RMF, ainsi que au niveau du Bodhisattva Lokeshvara, ici doté de quatre bras, où l'on a retrouvé même chose, le même rythme des couches, alors tantôt trois ou tantôt quatre, mais évidemment tout cela étant lié aussi à l'aspect très dégradé hein, de ces couches de polychromie. De même, sur une très belle tête de Vishnu du début du Xe siècle, découverte par Delaporte au Phnom Penh, on a pu mettre en avant des vestiges très ténus de coloration verte au niveau du premier étage de la coiffure en pagodon et blanche à l'étage supérieur. Et tout récemment, les vestiges d'une importante représentation colossale de Shiva dansant ont été réexhumés. En fait, ils avaient été mis au jour, j'ai envie de dire un peu hâtivement, dans les années 1920 par Henri Parmentier au Prasatum de Cocquer, avant d'être abandonné sur le site, surtout en raison des proportions colossales de cette image qui représentait à l'origine le dieu Shiva dansant et qui mesurait plus de 4 mètres de hauteur. C'est tout récemment que les fragments du corps viennent d'intégrer les réserves du musée Norodom Sihanouk de Siem Reap, après que d'autres éléments, notamment les parties de visage, aient rejoint les réserves du musée national de Phnom Penh dans les années 1960. On voit ici les différents fragments quand ils étaient encore posés au sol de la tour sanctuaire du Prasat Kram de Cocquer, recomposés virtuellement avec le jeu des images numériques, et puis un dessin qui évoque l'aspect originel de cette sculpture. Et parmi les fragments donc tout récemment ramenés à Siem Reap, on voit celui-ci qui nous montre le bas du dos, de la hanche et du pagne au niveau d'une des fesses du dieu. Et Monsieur Bertrand Porte, le restaurateur qui dirige l'atelier de restauration du Musée national de Phnom Penh, a eu la gentillesse de me communiquer cette photographie où, fort heureusement, on pourrait dire presque pour la première fois, apparaissent de véritables éléments de polychromie, des traces de coloration rouge, de blanc ici, qui suit le contour de la ceinture, ainsi que d'une teinte sombre, peut-être du noir, mais il faut bien sûr se méfier de l'altération de ces pigments. Leur nettoyage succinct a révélé donc les vestiges de cette polychromie. Or, la sculpture, qui remonte au deuxième quart du Xe siècle, fut brisée à une date visiblement très ancienne. Et les fragments gisaient épars dans les restes du piédestal maçonné du sanctuaire, lui-même abandonné sans doute peu de temps après le Xe siècle. Donc pour une fois, on peut affirmer sans trop de crainte que nous avons des traces de polychromie, et j'ajouterai qu'il n'est peut-être pas inintéressant de noter que celles-ci sont rouges, blancs et noirs, et nous avons évoqué notamment avec Madame Parlier l'importance que ces trois couleurs peuvent avoir dans les traditions indiennes. Il est vrai que ce second quart du Xe siècle a par ailleurs révélé les rares vestiges de peinture murale que l'on n'ait jamais retrouvé au Cambodge. Et je ne m'attarderai pas très longtemps sur le Prasat Neang Khmao, qui est un sanctuaire de cette époque, qui a conservé dans la cella de ses trois tours sanctuaires des restes de peinture murale qui étaient encore suffisamment lisibles dans les années 30 pour permettre les relevés réalisés par l'école française d'Extrême-Orient que vous voyez ici, hélas, en noir et blanc dans les documents dont je disposais. On y voit différentes représentations vishnouites à propos desquelles, évidemment, je n'ai pas le temps de m'attarder. Elles sont, hélas, aujourd'hui très dégradées, comme vous pouvez le constater dans ce détail du Trivikrama. Et Jean Boisselier, pourtant, comparait, mais c'était surtout sur la base des documents, des relevés de l'école française d'Extrême-Orient, ces bas-reliefs intérieurs du Prasat Kravan, au Prasat Kravan, pardon, un monument, lui, sculpté dans la brique et qui a été érigé sur le site d'Angkor à la même époque. Il précisait à leur propos: le dessin est d'une grande pureté. Les couleurs posées en aplats se réduisent à 3, blanc, brun, rouge et noir. Elles servaient peut-être de support à des tons plus variés, précisant les détails des figures et des parures. On retrouve les mêmes couleurs que sur le Shiva dansant. Celui-ci conserve à ce jour les fragments de statuaire polychrome les plus impressionnants de tout l'arc mer ancien. D'ailleurs, qu'en était-il des sanctuaires eux-mêmes ? Construits entre le VIe et le XIIIe pour l'essentiel, ces monuments furent tous abandonnés à de très rares exceptions près depuis le XVe ou le XVIe siècle au moins, en raison de la désaffection des élites khmères pour les religions du Cambodge classique, l'hindouisme et le bouddhisme du grand véhicule, le Mahayana, au profit évidemment du bouddhisme du Theravada. Lors de leur découverte au milieu du XIXe siècle, soit 3 ou 4 siècles après leur déclin, et parfois même bien davantage, dans le cas des édifices les plus anciens, les monuments abandonnés étaient le plus souvent livrés à la végétation luxuriante dans laquelle ils disparaissaient presque totalement. Ces monuments étaient en tout cas polychromes par nature, dans la mesure où ils étaient constitués, comme ici à Prerup, de matériaux aussi hétérogènes que le grès, la latérite, la brique, le stuc, le bois ou la terre cuite. Mais Ces matériaux se sont aujourd'hui considérablement altérés. On voit ici des détails du même sanctuaire où le grès qui constitue les parties inférieures le soubassement de la tour centrale ainsi que des tours qui entourent le sanctuaire central proprement dit, réalisé en grès couvert de lichen, la brique elle-même très altérée et le stuc, cela va sans dire, qui n'a pas conservé de traces de polychromie mais qui est lui-même très très altéré. Tout cela constituait déjà une véritable polychromie. Hélas, j'ai envie de dire, même si c'est évidemment une sorte de boutade, à partir de 1907, après la rétrocession au Cambodge et des provinces de Battambang, de Sisopon et de Siem Reap, l'école française d'Extrême-Orient a hérité de la lourde charge de dégager et de restaurer les monuments d'Angkor et de l'ensemble du Cambodge. Et ces conservateurs se retrouvèrent bientôt à la tête de chantiers souvent colossaux. Vous voyez ici toujours des vues de ce même sanctuaire de Prerup, mais avant justement dégagement, donc des sanctuaires colossaux qui était complètement enfoui sous la végétation. La tâche était énorme et le résultat fut spectaculaire. Il contribue d'ailleurs aujourd'hui encore au succès touristique que le site a rencontré depuis les années 30 et qui atteint, à vrai dire, aujourd'hui une dimension presque alarmante. Mais ces travaux n'étaient naturellement pas ceux d'archéologues dotés de la déontologie qui démarre à partir du milieu du XXe siècle, il va surtout se développer par la suite, et en fait une grande partie des informations fragiles que le monument abandonné recélait encore à la fin du XIXe siècle ont été irrémédiablement perdues dans ces dégagements, en dépit des rapports circonstanciés, mais parfois peu explicites sur ces questions, que les archéologues rédigeaient alors. Dans ces rapports, on trouve d'ailleurs fréquemment des mentions précisant l'importance des nettoyages des monuments et des statues. Parfois, on parle même de délaquage de certaines sculptures ou de nettoyage drastique effectué dans un souci de retrouver l'aspect originel des œuvres, comme si celui-ci était a priori connu, mais dans lesquelles les traces éventuelles de polychromie ont évidemment disparu. Aussi, les relations des premiers explorateurs, des découvreurs, des monuments khmers est-elle fondamentale? Si ceci ne mettait sans doute pas au jour le monument vierge de toute présence humaine depuis des siècles qu'ils imaginaient, il est certain que les vestiges auxquels ils étaient confrontés devaient contenir une mine d'informations précieuses sur la manière dont le monument s'était dégradé, la présence éventuelle de fragments de bois témoignant encore de tout un aspect de l'architecture khmère ancienne faisant aujourd'hui défaut et sur sa polychromie éventuelle. Hélas, émerveillés par les trésors qu'ils découvraient, éblouis par la richesse de la sculpture de pierre, ces découvreurs eurent souvent eux-mêmes à cœur de nettoyer les vestiges mis au jour, d'embrosser la poussière et la terre, et de laver souvent à grande dose sculptures et parois des temples pour leur rendre ce que l'on croyait être leur beauté originelle. Henri Mouhot, émerveillé par la découverte d'Angkor Wat qu'il vient de faire en janvier 1860, précise tout de même « À la vue de ce temple, l'esprit se sent écrasé, l'imagination surpassée. Je passe car le temps joue contre moi, et il précise à un certain endroit et l'or, les couleurs ont presque disparu de l'édifice. Il est vrai, il n'y reste que des pierres. » On voit donc ici que la plus ancienne description faite par un visiteur occidental mentionne la présence de l'or et des couleurs à Angkor Wat. Certes, l'enthousiasme du découvreur a sans doute décuplé les sensations de l'explorateur, mais il ne les a toutefois pas inventées. En 1296-1297, elle n'avait pas échappé au voyageur chinois Zhou Taquan, qui mentionnait la dorure éclatante ou patinée, et dans ce cas il parle alors de bronze, sur certains des grands sanctuaires d'Angkor. Force est de constater qu'aujourd'hui, hélas, ces traces ont presque totalement disparu, à de rares exceptions près. Louis de la Porte, dont vous voyez ici une restitution même de la tour centrale d'Angkor Wat, en 1873 s'intéresse de manière nettement plus précise à l'aspect que pouvaient avoir les monuments dans leur éclat originel. Et à son retour en France en 1874, s'évertuera à en restituer l'aspect polychrome, tant dans les dessins aquarellés qu'il réalisera toute sa vie durant par la suite, que dans les grands moulages de certaines parties d'Angkor Wat et du Bayon remontés dans les galeries du musée indochinois du Trocadéro. Ces travaux s'inscrivent dans le regard porté par le XIXe siècle, et ça c'est une chose bien sûr très importante. Madame Cloque-Fontani avait évoqué en introduction le caractère très culturel de la couleur et aussi du regard que l'on porte à la couleur. Eh bien évidemment cela s'inscrit, la démarche de Laporte s'inscrit dans tout ce contexte de l'intérêt que l'on porte à la polychromie de l'architecture ancienne de l'Égypte, du monde grec et romain, des travaux qui d'ailleurs suscite à l'époque des débats enflammés au sein de la petite communauté des architectes et des historiens d'art de l'époque. Dans ce détail de l'élévation précédente, on voit la place que Delaporte accorde à la polychromie, ou à tout le moins au rehaut de dorure. Et Georges Grolier, dans ses recherches sur les Cambodgiens, reprendra à son compte certaines des observations de Delaporte, intéressantes parce qu'elles datent justement de 1873, qu'il va enrichir d'une connaissance plus approfondie du terrain. Et Georges Grolier, dans ses travaux intitulés « Les recherches sur les Cambodgiens », précise « J'ai retiré d'Angkor Wat, d'infractuosité minuscule de la pierre abritée, des vestiges de résine tantôt noire, tantôt rouge foncé, et dans presque tous les cas des particules d'or adhérentes à ces résines, notamment dans la colonne cruciale, ce que l'on appelle aujourd'hui le préo-cruciforme en fait, dans la colonnade cruciale, ce que l'on appelle aujourd'hui le préo-cruciforme, sur les colonnes et danseuses de la frise, ainsi qu'au sanctuaire, dans les tiares des apsaras sculptées notamment à la face nord. S'il reste par ailleurs dans ce même temple des traces de dorure incontestablement récentes et qui apparaissent sur les bouddhas des sanctuaires et sur les bas-reliefs, au sud entre autres, toujours honoré, une grande différence est sensible entre ces dorures et les précédentes, et l'on ne peut guère supposer que les chambranles de portes soient entretenues et redorées, surtout en des parties tout à fait quelconques du temple et inaccessibles sans échelle. En conséquence, je tiens pour certain que les frises, linteaux, moulurations de portes, apsaras, sculptures de colonnes et de pieds droits de la galerie cruciale d'Angkor Wat et les bas-reliefs de ce monument furent dorés à la feuille sur assiettes de résine, tantôt noires et tantôt rouges. En revanche, il remet en cause les descriptions de Delaporte à propos de vestiges de véritable polychromie à Angkor Wat en ces termes. Delaporte m'a dit avoir vu vers 1875, dans cette même galerie, des traces de couleurs jaunes et vertes, sans pouvoir cependant affirmer la véracité de son renseignement. Cependant, ni Comaille en 1907, ni moi-même en 1910, n'avons retrouvé ces couleurs qui, pourtant dans un endroit absolument abrité, n'auraient pu disparaître radicalement en 40 ans, après avoir résisté avec une vigueur relative pendant un siècle. Peut-être est-il plus prudent d'admettre que ces couleurs furent simplement l'œuvre de quelques barbouilleurs du XIXe siècle. Dans les galeries du musée indochinois, Louis Delaporte avait reconstitué une coupe de la galerie supérieure d'Angkor Wat. Vous voyez ici le dessin, l'élévation, non pas du monument original, mais de la galerie telle qu'elle existait au musée indochinois du Trocadéro. Et ces fragments certains d'entre eux, en tout cas, se sont conservés jusqu'à aujourd'hui et nous avons pu, M. Zéphir et moi, les transporter dans de nouvelles réserves à l'automne dernier, dans des circonstances assez difficiles, je dois le dire. Mais au moins, les collections sont sauvées. Et en effet, dans les galeries du musée indochinois, Delaporte avait aussi reconstitué, ou en tout cas tenté d'évoquer, la polychromie telle qu'il avait pu la lire dans le sanctuaire d'Angkor Wat, qui est de loin celui qui conserve le plus grand nombre de vestiges. On voit ici un pilier dont le chapiteau est peint de rouge et de jaune, évoquant la dorure, et Delaporte regrettait d'ailleurs de ne pas disposer de moyens suffisants pour redorer certaines parties et de devoir se contenter de jaune. Et parfois la polychromie va très loin, comme dans cette partie de demi-voûte qui, si elle est peut-être en partie fantaisiste, dérive, quoi que pensait Georges Grolier, malgré tout pour une part d'observation in situ. En effet, les relevés que le German Apsara Conservation Project a pu réaliser tout récemment sous la direction du professeur Hans Leisen, qui travaille encore en fait depuis des années et qui vient de faire donc l'objet d'une publication, nous montre un certain nombre de rehauts colorés qui s'apparentent un peu, peut-être moins vifs que cela bien sûr, mais qui s'apparentent un petit peu à ce que Delaporte avait voulu évoquer au XIXe siècle. Et c'est particulièrement vrai pour cette mise en teinte des étrésillons où les motifs décoratifs se détachent moins par leur relief extrêmement ténu dans la réalité que par les rehauts colorés qui ont été réalisés avec un très grand soin. Et l'analyse des fragments de polychromie par l'équipe allemande a d'ailleurs tenté de montrer, parce qu'on ne peut rien prouver scientifiquement pour l'heure, que ces vestiges très soignés étaient, ça c'est certain, les plus anciens du monument et peut-être assez proches de la date de construction du sanctuaire. Quant au reste des couleurs, notamment sur les piliers, ils sont en tout cas antérieurs à 1750, puisque certaines calligraphies de voyageurs chinois et japonais remontent à cette époque et ont été rédigées sur les fonds rouges foncés sur lesquels ils se détachent. Mais ce qui est émouvant, c'est de constater combien le travail réalisé par De la Porte correspond tout de même au relevé décrit par l'équipe d'Hans Leisen. Cette question, en fait, n'intéressait visiblement plus guère les chercheurs des années 1930-1960 qui se contentent de préciser, tel Jean Boisselier dans son manuel sur le Cambodge, ouvrage par ailleurs remarquable à tous égards, « Nous ne connaissons qu'un nombre infime de peintures antérieures à l'époque moderne. Les traces qu'auraient cru relever les premiers auteurs dans quelques monuments pré-encoriens n'ont qu'une origine accidentelle et les couches de couleurs qui apparaissent sur tout ou partie de certains linteaux et de diverses statues ne sont jamais que des embellissements modernes. » Alors on va avant, voilà, c'est ça. Il apparaît en réalité que des éléments de polychromie, rares et ténus, c'est vrai, mais peuvent toutefois être relevés ici ou là, même dans l'architecture khmère pré-encorienne, comme à Sambor-Prekouk, où nous nous trouvons ici, dans la province de Kompong Thom, où sur certains bas-reliefs de briques sculptées, mieux protégés que d'autres du soleil et de la pluie, on a pu retrouver des traces de fond rouge, justement dans une partie très en retrait de la sculpture de ces très très beaux palais volants, parce que, eh bien, elle était dans la partie basse, probablement envahie par la végétation pendant des siècles, et qu'en outre, elle était protégée du ruissellement de l'eau par la corniche, la moulure en surépaisseur qui se trouve donc juste au-dessus. Donc on voit que tout ne peut pas être considéré comme ce que Jean Boisselier appelait des embellissements modernes. Mais Jean Boisselier rappelle heureusement, même s'il le dit avec un certain dédain, si j'ose dire, on a fait grand état d'un passage de l'inscription K364 de Ban Tat, de la première moitié du XIIe siècle, mentionnant les antiques légendes que l'on croyait toutes reproduites sur le mur brillant de tableaux. Rien dans les trois sanctuaires de ce temple ne subsiste de ces peintures que l'on nomme en sanskrit Chitra dans la lipigraphie et que Louis Finot supposait soit murales, soit mobiles. C'est vrai, les peintures sont aujourd'hui perdues, mais il ne faut pas oublier que le mot sanskrit Chitra est passé dans la langue mère ainsi que dans la langue thaï, ce qui prouve en tout cas que le nom même de la peinture a laissé sa marque en Asie du Sud-Est. Jean Boisselier souligne enfin qu'il faut attendre la fin du XVIe ou le XVIIe siècle pour retrouver à Angkor Wat notamment quelques traces de peinture. Je passe la citation qui est un petit peu longue, mais quoi qu'il en soit, qui prouve que pendant longtemps, on a considéré que tous ces éléments de polychromie étaient par définition post-encoriens, plus tardifs que ceux que l'on a pu imaginer au XIXe siècle. Toute chose donc remise en cause par les travaux du German Apsara Conservation Project dirigé par Hans Leisen que je citais déjà précédemment. Quant au bas-relief de la galerie de troisième enceinte, donc cette très vaste galerie où se concentrent l'évocation en bas-relief des grandes épopées, le Ramayana, le Mahabharata, ainsi qu'un hommage rendu au souverain lui-même, peut-être dans une dimension d'hommage posthume d'ailleurs, eh bien ils ont conservé en de nombreux endroits des traces de traitement de surface, notamment d'une laque qui se retrouve ici ou là sur certains panneaux. S'agit-il, parce que c'est une véritable laque, là aussi, c'est ce qu'a pu définir récemment cette même équipe allemande à propos certaines de ces brillances pour lesquelles on a pu dire qu'il s'agissait de traces du geste d'hommage que l'on avait pu faire pendant des siècles avec le plat de la main et qui aurait donné cet aspect coloré. Non, il y a bien une résine en fait apposée sur la surface. S'agit-il du vestige d'une sorte sorte de bol sur lequel aurait pu être posée une dorure. C'est en fait assez difficile à préciser dans le cas que nous avons à l'écran, un détail de du grand bas-relief consacré à la bataille de Kurukshetra. Parfois, il s'agit plus réellement d'une polychromie. J'avoue que je me suis demandé si tout ça allait subir le passage à l'écran, mais oui, dans le fond, vous voyez ici du rouge, hein, visiblement placé, du rouge en partie supérieure, du blanc ici ou là, c'est plus voilà au niveau notamment du parasol, et puis surtout des éléments de coloration noire qui marquent les diadèmes et les parures de tous les protagonistes de la scène, Bhishma, mais aussi tous les assistants de la scène de ce passage célèbre du Mahabharata, et qui sont en fait des traces d'une dorure qui était posée la laque. Mais en général, alors ça c'est un détail du même, mais en général, il faut bien avouer que cette polychromie pose un certain nombre de problèmes dans la mesure où, comme ici, elle se trouve sur des parties inachevées du décor. Vous voyez la partie centrale de la représentation du barattage de l'océan de lait, mythe vishnouite très important et qui donc avait toute sa place dans le sanctuaire vishnouite qui était en Corvate, qui se trouve dans la partie sud de la galerie est, qu'il occupe presque intégralement, et la partie centrale, alors que tout le reste du bas-relief est presque parfaitement achevé d'un point de vue de la sculpture, eh bien la partie centrale où l'on voit justement Vishnu sur le mont Mandara avec la tortue, donc l'avatar de Vishnu lui-même, Kurma, supportant le mont Mandara, est la partie la plus inachevée de tout ce bas-relief, sans que l'on ait pu jamais en expliquer la véritable raison. L'œuvre attendait-elle le maître chargé d'exécuter in fine le chef-d'œuvre de la composition? On ne le sait pas. Quoi qu'il en soit, la polychromie qui peut se lire très clairement, le blanc du visage qui d'ailleurs sied mal à Vishnu, mais je vous rappelle que l'altération des pigments est une chose qu'il faut constamment rappeler, surtout pour des monuments aussi anciens qu'en Corvate, et puis qui ont beaucoup subi le climat du Cambodge, le soleil et la pluie, notamment quand cette galerie a été en partie livrée à ces éléments, quand la voûte avait été démontée. Donc rien ne dit qu'à l'origine le visage du dieu était bien blanc. Mais quoi qu'il en soit, cette polychromie se trouve sur une partie inachevée. Et donc, pour ce qui est de la galerie de troisième enceinte, il semble bien que la plus grande partie de ces rehauts colorés ne soit pas antérieure, effectivement, au XVIe siècle. Et je dirais que, en conclusion, et bien que les différents spectacles, sons et lumières que l'on met en scène sur le site d'Angkor aujourd'hui pour les touristes sembleraient nous affirmer le contraire, nous ne pensons pas que les monuments et la statuaire du Cambodge ancien aient jamais ressemblé à ce qui peut s'observer dans les traditions tardives de l'hindouisme, du monde indien, ou du bouddhisme, d'ailleurs du Theravada, où notamment le recours à des peintures modernes qui sont à la fois plus résistantes aux outrages du temps et plus colorées aboutit à ces résultats impressionnants que l'on connaît dans les grands sanctuaires de Kanchipuram ou de Kumbakonam. En fait, si le Cambodge a connu la couleur, c'est évident, celle-ci ne comportait sans doute pas une palette très diversifiée. Leur composition naturelle et leur fragilité n'a de toute façon guère pu résister aux outrages du temps. Et il est fort probable que seules quelques saisons des pluies auront eu ces raisons de leur vivacité si ces couleurs ont jamais existé. Aussi, ces visions idéales que vous pouvez ici découvrir dans une maquette réalisée par le capitaine Philose en 1897 et qui faisait partie des collections du musée indo-chinois du Trocadéro, dont nous parlerons d'ailleurs dans notre prochaine exposition à l'automne consacrée à la redécouverte d'Angkor, eh bien, nous donne justement un aspect polychrome qui évidemment n'a rien à voir avec l'original, d'autant que le capitaine Philoz, considérant que le Bayonne était un sanctuaire hindou, à penser que ces différents visages, dont l'iconographie d'ailleurs pourrait faire l'objet d'un colloque en soi, parce qu'on ignore précisément qui sont les divinités dont les visages sont sculptés en direction des points cardinaux et intercardinaux partout dans la partie supérieure des tours sanctuaires, étaient ici peints en bleu, puisque c'était une référence notamment à Vishnu. On l'a évoqué notamment avec Madame Filioza plusieurs fois. Donc ces visions idéales de la fin du XIXe siècle, en tout cas pour certaines d'entre elles, à l'exception de certaines parties du décor mentionnées tout à l'heure pour Louis de la Porte, ainsi que des visions modernes que l'on connaît notamment dans certaines restitutions numériques que l'on voit d'ailleurs ici ou là sur Internet, paraîtraient sans doute aussi exotiques aux yeux des Khmers anciens qu'elles ne le sont pour ceux qui s'intéressent à ces arts avec un tant soit peu d'attention. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la communication de Pierre Baptiste du musée Guimet intitulée « La polychromie dans l'ancien Cambodge, statuaire et décor architectural 7e-13e siècle » dans le cadre du colloque de l'Académie des inscriptions et belles-lettres « Voir et concevoir la couleur en Asie » qui s'est déroulé en janvier 2013. Retrouvez l'ensemble des interventions de ce colloque sur Canal Académie.